Égésippe Moreau, Thérèse Sureau. Je flânais un jour avec des lys, bouche béante et le nez en l'air, sous les marronniers en fleurs du jardin des plantes. Car ce jour était un dimanche, et j'étais alors de mon métier compositeur d'imprimerie. Or, par la littérature qui court, c'est un terrible métier, je vous jure. Figurez-vous que j'avais pâli et bâillé toute la semaine sur le nouveau roman d'un auteur en vogue. Mais pourquoi donc avais-je murmuré 20 fois, souffleté ainsi brutalement et à tout propos vos gelards, restos et vaillis, avec lesquels je gagerais que ce monsieur n'eut jamais rien à démêler? Aussi, dès le matin du jour libérateur, ma main, complice involontaire et noire encore de 1000 attentats à la langue, s'était cachée honteuse sous un gant. Le dimanche, comme vous savez, est pour le peuple un jour de métamorphose. Je m'avisais ce jour-là d'être galant. Parmi les promeneurs groupés, toujours curieux et toujours les mêmes, devant l'enceinte close où se pavane l'éléphant, je venais d'apercevoir une jeune dame dont j'avais peine à m'expliquer la présence en pareil lieu, car bien que sa mise fût d'une grande simplicité, sa figure éclatante de pâleur sous un bandeau de cheveux noirs ne manquait pas de distinction, et ses lèvres, plus d'une fois, avaient accueilli par un mouvement ironique les sottes observations qui pleuvaient autour de nous. J'épiais l'occasion de lui adresser la parole. Elle ne se fit pas attendre. Son sac, qu'elle avait ouvert, n'avait laissé voir entre un rouleau de papier et un in-octavo 3 petites pommes de rainette. Un mouvement de l'inconnue me fit croire qu'elle voulait, elle aussi, payer son tribut au vorace animal. « Prenez garde, lui dis-je. Une dame, dimanche dernier, avançait étourdiment comme vous le bras où pendait son sac pour offrir un échaudé à l'éléphant, et ce gastronome peu délicat à pas et englouti du même coup, le sac et l'échaudé, prenez garde. » Encouragé par un sourire de ma voisine, je poursuivis. « Tenez, lui dis-je, c'est ainsi qu'il faut s'y prendre. » Et, saisissant une des pommes entre le pouce et l'index, je l'offris à l'animal. Il l'avala de si bonne grâce que je pris à l'instant la seconde qui disparut comme sa sœur. J'aurais fait suivre le même chemin à la dernière si la main que j'étendais n'eût plongé dans le vide. La jolie promeneuse avait disparu. Je m'éloignais, soucieux et marchant au hasard, lorsqu'au détour d'un sentier solitaire, j'aperçus l'objet de ma préoccupation. Assise sur un banc de pierre, la dame aux pommes de rainette en croquait à belles dents la dernière, sans la peler, et tout en mangeant, parcourait des yeux et de la main les pages du livre déployé sur ses genoux. Je m'arrêtai à quelques pas, pétrifié de surprise et de confusion. Hélas, je le comprenais enfin, mais trop tard. Ce n'était point à l'éléphant qu'était destiné ce plat de dessert. Et dans ma gauche courtoisie, j'avais volé à la dame de mes pensées les 2/3 de son déjeuner. Que faire? C'eût été ajouté à la sottise et à l'offense que de lui en offrir brutalement d'autres. Et cependant, je mourais d'envie d'acquitter ma dette. Son repas pythagoricien fini, elle continuait sa lecture, qui paraissait l'intéresser beaucoup. Alors j'eus une idée bizarre. Je me souvins qu'un étudiant de mes amis avait conquis autrefois les bonnes grâces d'une reine de comptoir en usurpant le nom de Casimir de la Vigne, et soudain mon projet fut arrêté. Au moment où la jeune lectrice, par un mouvement d'admiration idolâtre, touchait de ses lèvres roses un feuillet de livre, « Merci !» dis-je bravement, et je m'avançai. Voiture pompier au moment où la jeune actrice. Au moment où la jeune lectrice, par un mouvement d'admiration idolâtre, touchait de ses lèvres roses à un feuillet du livre, « Merci !» dis-je bravement, et je m'avançai. L'inconnu leva les yeux. « Comment ? » dit-elle, rouge comme une cerise, « vous seriez ?» Je l'interrompis en m'inclinant d'un air modeste. « Alors, vous eussiez vu la pauvre enfant frémir d'un saint respect, et vous-même, vous frémiriez d'indignation, lecteur, si je vous disais de quelle auréole poétique je m'étais affrontément coiffé. J'offris mon bras à la promeneuse solitaire. Il va sans dire qu'il fut accepté. Chemin faisant, ma compagne me prodigua les confidences. C'était une femme auteur, fraîchement débarquée comme tant d'autres de la province qui ne la comprenaient pas à Paris, qui ne se souciaient fort peu de la comprendre. Elle avait composé, dans la solitude et le silence, disait-elle, un volume de poésie qui courait grand risque, pensais-je, de mourir comme il était né. De plus, elle venait de jeter dans les cartons d'un théâtre ou du boulevard un drame en 5 actes, intitulé, autant qu'il m'en souvient, « Zénobie ». Le souffleur, l'allumeur, le machiniste et autres littérateurs lui avaient conseillé, dans l'intérêt de la pièce, d'y tailler un rôle pour un éléphant, ce qui m'expliquait enfin son attention de tout à l'heure aux allures du gigantesque comédien. Hélas, la pauvre dévote croyait se confesser au grand prêtre de la religion romantique, et moi, je l'écoutais rougissant et balbutiant, comme l'écolier espiègle qui s'est caché la veille de Pâques dans un confessionnal pour surprendre aux jolies pénitentes l'aveu de leur péché mignon. Notre promenade vagabonde nous avait entraînés hors du jardin. J'allais toujours. Et ma compagne suivait sans défiance. Ce n'était pas un homme, mais un poète qu'elle suivait. Pour elle, le bourdon de Notre-Dame sonnant vêpres sonnait ma gloire. Pour elle, je portais sur le front une flamme bleue comme les génies des contes, et sur la foi de cette étoile, elle m'eût suivi sans hésiter jusque dans la cour des miracles. Nous nous trouvâmes ainsi, loin, bien loin de notre point de départ, en face d'une jolie guinguette que je connais. « Si nous entrions là, lui dis-je, nous serions plus à l'aise pour causer. » Et sans attendre la réponse, je franchis le seuil, entraînant avec moi la naïve provinciale, quelque peu étonnée de ses lestes façons, et les attribuant sans doute in petto à l'originalité, compagne ordinaire du génie. Les deux pommes volées n'avaient pesé jusque-là sur la conscience, mais enfin, mes remords s'évanouirent entre un rôti et un dessert, et cependant la conversation ne cessait pas d'aller son train. « Comment me conseillez-vous de signer mon nouveau recueil ?» dit la muse. « Vous le savez, un nom sonore impose quelquefois au lecteur, et l'on aurait grand-peine à croire au talent d'un poète qui s'appellerait prosaïquement Thérèse Sureau. » Je bondis à ce nom bien connu, et, béant immobile, je fixais sur celle qui me parlait des yeux épouvantés. « Ma cousine !» balbutiai-je en retombant sur ma chaise. Elle trahit par un geste son désappointement. « Oh, non, je ne suis pas un poète, et je vous ai trompé, poursuivis-je en prévenant ses questions. Je suis tout simplement belle muse, Pierre-Jacques, votre cousin, ouvrier imprimeur, pour vous servir. » Et en effet, c'était bien Thérèse, Thérèse la mieux aimée de mes compagnes d'enfance, et dont, sous un masque récent de pâleur, la figure autrefois si rose avait d'abord éveillé chez moi qu'un vague souvenir. À 17 ans, elle était devenue ma cousine, rien que ma cousine, hélas, en épousant un gros gras et riche fermier, mon parent, qui ne tarda pas à la laisser veuve, en tombant un soir, après de ferventes libations au sein du village, dans un piège à loup d'où on le retira mort le lendemain. Élevé par les dames du château et leurs demoiselles de compagnie avant ce mariage, la jeune veuve se laissa bientôt aller à la vie élégante qu'elle avait essayée autrefois et à la poésie, ses premières amours. Inondée de pluie de grêle et de procès, son petit domaine s'en alla sous ses pieds comme un sable mouvant, tandis qu'elle regardait le ciel. À son arrivée à Paris, elle était riche encore d'une vigne d'un pré, mais fallait payer les frais d'impression de ses poésies, mais il fallait jeter un peu de poudre d'or sur les feuilletons, si bien que la jeune fermière ne possédait plus rien au soleil que sa jeunesse et sa beauté. Et Thérèse n'entendait rien, Dieu merci, à l'exploitation d'un pareil fonds. Après un moment de silence, je n'espérais pas, lui dis-je, je n'essaierai pas de vous détourner d'une carrière à laquelle vous seriez fatalement prédestiné, mais êtes-vous bien sûr de votre vocation? De quel droit vous proclamez-vous poète? Est-ce pour avoir quelquefois aligné des alexandrins et accouplé des rimes? Mais à ce compte, je suis poète aussi, moi. Mon voisin l'étudiant, mon antipode l'épicier, le sont encore, et mon portier, qu'il est en soi peu lui-même, balaie tous les matins de la poésie à chaque étage. Prenez garde de vous tromper et de prendre pour votre étoile un feu follet qui vous conduirait, Dieu sait tout, à la misère, à la honte et à la mort. Mon état, cousine, me donne le droit de vous parler ainsi. La typographie, voyez-vous, est l'antichambre de la littérature, et comme tout valet de grande maison, je regarde quelquefois par le trou de la serrure. L'autre jour, par exemple, le prote me députa chez un auteur qui faisait attendre de la copie. C'était comme vous, Thérèse, une jeune fille de 20 ans. Je la trouvais malade au lit et soignée par sa mère. Elle écrivait. De temps en temps, sa tête fatiguée retombait sur sa poitrine, la plume s'arrêtait sous ses doigts amaigris, et alors elle demandait une tasse de café. C'était pour s'inspirer, disait-elle. Mais la petite ligueur perfide lui versait à la fois la fièvre et l'inspiration, et chaque phrase, chaque vers, coûtait à la malade un quart d'heure de vie. « Hâtez-vous, madame, lui avais-je dit étourdiment, car nous attendons et nous avons besoin de travailler. Oh, vous avez besoin de travailler, murmura-t-elle en regardant sa mère, et moi donc. Ce n'est pas un roman, cousine. La jeune muse chantait hier encore. Elle est muette aujourd'hui. Et si vous désirez savoir son nom... Oh non, silence, grâce, dit vivement Thérèse. Ce nom, je le connais. Cette histoire, je la sais. Pauvre sœur aînée, si le sommeil de la mort... Tes rêves, ta gloire posthume, du moins te console aujourd'hui dans la tombe. Sa gloire, cousine, interrompis-je en souriant avec tristesse. Mais oseriez-vous l'attaquer? Ah, Dieu ne plaise que je veuille arracher avec mes noires mains quelques brins de laurier à une tête de mort. Mais si j'étais père et qu'on m'eût invité, comme tant d'autres, à souscrire pour le monument funèbre de la jeune Bretonne, de grand cœur aurais-je répondu, mais à condition qu'on y gravera pour épitaphe « Sigy, une honnête fille, tuée à 20 ans par la manie d'écrire » et, plus bas, « Il est défendu de déposer des vers sur cette tombe. » Et quand même la foi que vous avez dans votre génie ne serait pas une erreur. Écrire, chanter, jeter de l'éclat et faire du bruit, est-ce bien là, Thérèse, le rôle qui convient à une femme? Qu'en dites-vous? Pour moi, le cœur me saigne, et la rougeur me monte au front toutes les fois que je lis dans un journal ces paroles ou l'équivalent. Une jeune dame, qui se cache sous le pseudonyme transparent de 3 étoiles, vient de publier un nouveau roman auquel la vogue est assurée. Cette fois, plus de voile sur la situation, plus de réticence dans les expressions. On devine que l'aimable auteur s'est inspiré de ses souvenirs, etc., etc., pris 7 francs 50 centimes. Cette annonce à votre vie n'est-elle pas le digne pendant de cet autre que j'entendis un jour hurler sur les bateaux de la foire? « Entrez, messieurs des dames, vous y verrez la petite Ruliska, princesse de Karamani, qui a eu des malheurs. Elle est âgée de 16 ans, danse sur la corde, sans balancier, marche sur la tête comme un ange, et fait le grand écart. Comme c'est étonnant à son âge! Entrez, ça ne coûte que 2 sous !» Un honnête homme, dit-on, à qui des bohémiens avaient enlevé la fille au berceau, faillit devenir fou de douleur en retrouvant un jour déguisée en princesse de Karamani. Et que dirait le vôtre, cousine, le vôtre qui est pieux et qui sait lire, s'il vous rencontrait un beau matin dansant sur la phrase dans un journal ou faisant le grand écart dans un roman? Une larme coula sur la joue de Thérèse. « Ma victoire, lui dis-je, voici une perle assez précieuse pour acheter le pardon d'un père. Cours lui offrir cette larme. Chaude encore, allez, son baiser l'essuiera. J'en réponds. » Elle résista, mais j'insistais. Elle discuta, mais je suppliais. Bref, je fis près de ma cousine pour la ramener à Dieu ce que j'eusse fait près d'une autre pour la gagner au diable. Si bien que le soir même, je l'entraînai à la diligence avec ses bagages, presque aussi légers qu'elle, et que le lendemain nous roulions tous deux sur la route de Champagne, elle, pâle et souffrante encore de sa gloire avortée, moi, gai, triomphant et criant au postillon, « Ne verse pas, camarade, tu portes une muse et sa fortune !» Je ne pus assister à l'entrevue de l'enfant prodigue et de son père. Je m'étais arrêté en chemin à 2 lieues du village, dans une imprimerie toute petite, mais proprette, coquette, hospitalière. Vous la connaissez, ma sœur, où je me reposais voluptueusement, sur d'innocentes affiches de la littérature parisienne. Mais le dimanche suivant, comme vous pensez, j'arrivai chez mon oncle presque aussitôt que l'aurore. Je trouvai ma cousine chantant à sa fenêtre pour bercer un petit enfant tourmenté par sa dentition. Et si, d'aventure, vous êtes curieuse de connaître la romance, je l'ai retenue, la voici. Pauvre muse dédaignée dans le pays des méchants, à ton berceau résigné, Loïs, j'apporte mes chants. Cette fois ma gloire est sûre, mon public est sans sifflet, et son baiser sans morsure, il n'a que ses dents de lait. Dans les sentiers de la vie, à tous les buissons pendants, un fruit nommé poésie tente la main et la dent, et l'enfant qui le regarde, sa couleur vermeille plaît. Boloïs, un jour, prends garde d'agacer tes dents de lait. Le ciel de la ville est sombre, oiseau fidèle à son nid, si tu chantes, chante à l'ombre de notre clocher béni. Pour le bonheur seul respire, et même à l'heure qu'il est, qu'en dormant un long sourire, laisse voir tes dents de lait. Oui, qu'une douce chimère caresse ton front vermeil. Rêve des baisers de mer, je vais, pendant ton sommeil, au palais clair de la houille, filant comme le filet, demander à sa quenouille un pain pour tes dents de lait. Bravo ! M'écriai-je, et d'un bond, je fus dans la chambre. Thérèse m'accueillit cordialement, mais d'un air un peu froid. Ses manières trahissaient une préoccupation secrète et faisaient soupçonner que la jeune maîtremane n'était pas tout à fait guérie, mais seulement convalescente. Je me trouvai un moment après attablé entre elle et son père, devant une excellente soupe aux choux que l'ex-muse prétendit avoir faite elle-même et sans collaboration, la vaniteuse. Le repas fut gai, on rit, on jasa beaucoup. Je soupçonne même que l'on déraisonna un peu, la piquette et la joie font de ces tours. Malheureusement, comme je portais mon mouchoir à mes yeux, attendri par les remerciements du bonhomme, le mouvement fit sauter de ma poche une lettre à l'adresse de Thérèse. Pendant que je présidais à Paris au transport de ces effets allant et venant du troisième étage à la rue, son portier m'avait remis pour elle ce billet qui était resté jusque-là oublié et enseveli dans la poche de mon habit du dimanche. Hélas, plût à Dieu que les souris de ma chambre l'eussent mangé la lettre et l'habit. C'était une invitation d'un directeur de théâtre à l'auteur de Zénobie que l'on attendait, disait-il, pour commencer les répétitions de son drame reçu la veille par acclamation. Thérèse en fit lecture à haute voix, et de lors, je sentis que c'en était fait de son bonheur. Nous n'opposâmes qu'une résistance faible et sans espoir à l'invincible fascination qui l'entraînait. Elle partit, et sans retour. Un mois après, nous pleurions, son père et moi, sur une lettre au cachet noir portant le timbre de Paris. Thérèse, impatiente de partir, n'avait trouvé aux messageries de la ville voisine de place vacante que sur l'impériale, et, battue tout un jour par la pluie et le vent, avait passé à son arrivée de la voiture au lit d'agonie. La gloire l'eût guérie peut-être, mais à l'instant même où elle se traînait avec effort vers le théâtre dont les appels l'avaient égarée, ce théâtre, comme par une vengeance du ciel, croulait dans les flammes avec ses oripeaux, ses décors, ses cartons, hélas, et le drame de Zénobie. Dès lors, la fièvre redoubla et eut bon marché de sa victime. Une circonstance régulière marqua les derniers moments de Thérèse. Comme son hôtesse l'invitait à essayer de quelque nourriture, « Oh, je dînerai ce soir, » dit-elle avec l'air et l'accent du délire, je dînerai en belle et nombreuse compagnie. » Et d'une main tremblante, elle se mit à tracer des invitations. Or, voici quelle était la liste des convives. Dryden, Malfilâtre, Savage, Chatterton, Gilbert, Escous, Elisa Mercœur. Les jours, les semaines, les mois qui suivirent ces fatales nouvelles furent pour moi, comme vous pensez bien, remplis de distractions douloureuses. Les caractères répondaient les uns pour les autres à l'appel de mes doigts tâtonnants. Je me barbouillais d'encre en essuyant mes pleurs, et une fois, entre autres, m'étant penché sur la forme humide d'un placard qui devait annoncer la mise en location de je ne sais quel appartement, je trouvais en me relevant ces mots imprimés sur mon gilet, à l'endroit du cœur, « Vacant par suite de décès ».